לך אלס ותפלחר ושתפתחר ענדק וענדק וענדק.
Y'a cette musique qui tourne et qui tourne et qui tourne, mais personne qui l'écoute et nos vies qu'est-ce qu'elle coûte. Cette musique qui tourne et qui tourne et qui tourne, mais personne qui l'écoute et nos vies qu'est-ce qu'elle coûte. La paix. Alors je rêve encore que tout s'arrange d'un futur transparent. Qu'un jour j'aurai 20 ans, qu'un jour j'aurai 40. Que j'aurai du talent de revoir mes parents en vie. Plus de massacre en ville. Quitter cette vie que je me téléporte. Beaucoup de sang pour fabriquer beaucoup de téléphones. Quel est le bon côté? Ça sert à rien d'avoir la terre la plus riche du monde pour y mourir de pauvreté.
Swad Massi en featuring avec Youssoupha, Congo Connexion.
Oyez, oyez, hop, debout là-dedans.
Le pire est à venir, le pire est à venir.
Allez, debout là-dedans, allez.
Le pire est à venir, la matinale de Principe Actif et d'HDR.
Le pire est à venir.
Un pied dans le futur, un pied dans le présent, il est l'heure de retrouver notre ami Antoine.
Salut à tous, ce matin je voulais vous partager mon avis de mec qui se prend pour un expert et parler de l'impact des émojis sur nos conversations. Parce que c'est vrai qu'il y a plusieurs écoles en termes d'émojis. Les jeunes qui ont grandi avec et qui les ont intégrés dans leur communication comme une ponctuation un petit peu. Il y a ceux qui n'ont pas adhéré et qui n'en mettent pas du tout. Puis enfin, il y a ceux qui, malgré le gap générationnel, ont tenté de suivre le move et qui en mettent la tonne. Mais des fois, on n'est pas sur les mêmes codes, hein. Les gouttes d'eau, on n'est pas vraiment pour la pluie. L'abricot, l'aubergine, c'est rarement pour une salade composée au mélange chelou. Et si j'en parle aujourd'hui, c'est pas juste pour faire une vidéo YouTube comme on en faisait en 2010 sur les différents types de profs. Non, c'est parce qu'il y a des vrais phénomènes sociaux qui en découlent. Je m'en suis rendu compte parce que, personnellement, je suis un piqué d'émojis. À chaque message, faut que j'en mette au moins un pour montrer que tout va bien. Et sinon, c'est pareil, quand je reçois, ça devient vite la foire aux questions. Est-ce qu'il va bien? Est-ce que j'ai mal fait mon message? Est-ce que je l'emmerde? Et je me rends compte que je suis pas le seul. J'ai des potes qui viennent d'horizons totalement différents et qui deviennent presque agressifs si on leur envoie un simple message « ok, point ». Ou plus globalement, n'importe quel message se terminant par un point. Et sans émoji. Alors que c'est la base, hein, de terminer ses phrases par ses points, en français. Du coup, je me suis intéressé aux études sur le sujet et figurez-vous qu'on en trouve quelques-unes. On en retrouve qui parlent du harcèlement camouflé par les émojis, d'autres qui parlent des biais perçus en entreprise dans des contextes multigénérationnels avec de l'incompréhension, et puis d'autres encore qui traitent de ce que je vous ai parlé dans la première partie avec l'anxiété que cela peut susciter sur ceux qui la pratiquent déjà au quotidien. Enfin voilà. J'espère que cela pourra vous fournir une grille de lecture pour vos prochains messages et ne plus penser juste à « il est un peu sec son message là » ou alors quand il n'y en a pas « c'est quoi cette foire d'émoji, il a cru que c'était la fête ?» Puis au final, comme d'hab, c'est toujours les anciennes générations qui s'en sortent par le haut. Ils en mettent trop, mais ils passent pour des bêtes de l'adaptation du numérique. Bonne journée tout le monde.
Toujours avec Nour Khalif de l'association Trisomie 21 Normandie, nous avons abordé un petit peu tout ce que proposait l'association. Moi, je voulais qu'on revienne un petit peu sur les événements, Nour, parce que ce samedi 21 est la journée mondiale de la Trisomie 21. J'ai envie de poser la question, peut-être un peu provocatrice, mais à quoi sert et comment vous emparez d'une journée mondiale de la Trisomie 21.
Alors, la journée mondiale de la trisomie 21 est là pour objectif de marquer finalement, je dirais encore l'inclusion par la différence. Le fait de porter des chaussettes dépareillées, c'est d'acter voilà, qu'on peut être différent et que c'est plutôt une richesse et que ça pose nullement problème, quoi.
Alors ça, c'est le symbole un petit peu de cette inclusion et notamment de l'inclusion du handicap et de la trisomie 21 en particulier, c'est mettre deux chaussettes dépareillées pour marquer ce soutien à l'inclusion. C'est ça l'idée.
À la différence, en
fait. À la différence, même plus largement, oui.
C'est vraiment, c'est un peu célébrer la... Moi, je dirais que c'est plutôt célébrer la diversité puis briser un peu les préjugés en disant que... on accepte cette différence-là et que ça pose nullement problème.
Ouais, alors c'est vite dit, hein, parce que moi qui suis TSA, donc avec un trouble autistique, deux chaussettes différentes, c'est mon angoisse absolue du matin, quoi. Mais je soutiens autrement, hein, mais là ça va être compliqué pour moi. On est sur un gros défi là.
Voilà, c'est un gros défi, mais c'est vraiment le défi, c'est vraiment devenu finalement la célébration de la diversité. Le choix de porter des chaussettes dépareillées, c'est, et puis en plus ça a été lancé il y a très très longtemps de mémoire par l'association britannique Down Syndrome International qui vraiment voulait aussi célébrer cette diversité et se dire bah voilà, on acte, et j'entends bien que pour une personne et ça peut être, mais pas que, je dirais, hein, parce que il y a d'autres spécificités qui font que ça peut être compliqué. Pour autant, on entend bien que seules les personnes qui peuvent le faire et qui ont envie de le faire le feront. Il y a nullement cette obligation.
Alors ma machine à laver m'aide beaucoup dans ce défi, moi, au quotidien. Régulièrement, elle me sort des paires dépareillées. Hein. Je ne sais pas pourquoi, allez savoir.
Mais ça, c'est l'histoire des machines à laver qui
sont inclusives, du coup.
Apparemment, avalent certaines chaussettes, mais ce n'est plus un mythe, hein, ça a été prouvé.
Bah, du coup, il n'y a plus qu'à ressortir finalement celles qui n'ont pas retrouvé leur père, en fait. Hein. On a tous possibilité de se faire une petite paire dépareillée sans bouleverser non plus celles qui sont entières, quoi.
Hein. Non, et moi, grâce au défi qu'on a pu lancer, j'ai découvert que, on a eu des témoignages de personnes qui nous disent, moi finalement, je porte des chaussures dépareillées tous les jours, quoi.
C'est aussi l'opportunité de discuter, parce que si on voit nos chaussettes, c'est « Oh tiens, t'as pas mis des chaussettes de pareil aujourd'hui ?» Et ça va être un prétexte aussi à aborder cette question. Enfin, j'imagine qu'à travers quelque chose de visible par le monde extérieur, finalement, ça peut faciliter aussi la discussion.
Ça favorise la discussion, mais ça aussi... votre collègue, justement, parlait de la difficulté de mettre une paire de chaussettes. Nous, on a aussi l'inverse. On a des jeunes enfants pour qui, justement, on travaille. Alors, des jeunes enfants, mais aussi des jeunes adultes, hein, pour qui on peut travailler sur certains versants du quotidien. Et c'est pareil, mais en même temps, c'est quand même une paire de chaussettes. surtout que c'est bien mal. Et de ce fait, c'est aussi acté qu'on accepte cette différence-là et cette diversité. Donc ça amène de la discussion, mais je pense que ça peut aussi amener une forme de bienveillance.
Tout à fait. Alors, c'est samedi 21, jusqu'à samedi 21, on peut se dépareiller les chaussettes. Et vous avez lancé le deuxième étage du défi avec du collectage de photos.
Oui, alors c'est même le premier. On a lancé pour cette journée du 21 mars un défi à toutes les personnes qui souhaitent le relever. Et on souhaite atteindre les 500 photos, on espère, pour cette première année. Hein. Les années d'après, on essaiera d'aller un peu plus loin. Le premier défi, c'est de nous envoyer une paire de photos de chaussettes, qu'elles soient trouillées, ce que vous voulez, une paire de chaussettes à partir du moment où elle est dépareillée. Ça, c'est vraiment le premier défi qu'on a lancé. Et après, on est parti un peu plus loin en disant que ceux qui souhaitaient soutenir l'association, elle mettait en vente pour cette journée-là, en partenariat avec le bar à chaussettes, des chaussettes dépareillées, et dont les ventes iront au prix de l'assaut.
Alors, c'est quoi ce bar à chaussettes ? Alors, je ne le connaissais pas, ce bar à chaussettes.
Alors, le bar à chaussettes, c'est... Alors, on est affilié, nous, à la Fédération Trisomie en France aussi, hein. Et la Fédération donc avait un partenariat initialement avec le bar à chaussettes qui a été ouvert à toutes les associations Trisomie 21 autonomes, puisque nous, c'est une gestion autonome. Et c'est un fabricant de chaussettes qui vend des chaussettes dépareillées. Mais pas que. Et de ce fait, c'est des chaussettes assez chouettes, avec des couleurs assez rigolotes, des motifs très rigolos aussi. Et de ce fait, en fait, on a un partenariat avec eux qui nous permet d'avoir accès à ces chaussettes et de pouvoir vendre au profit de l'assaut.
Alors, je suis justement en parallèle de notre échange, je suis en train de regarder effectivement les chaussettes dépareillées. C'est vrai que c'est assez chouette, c'est même plutôt la classe en fait.
C'est super sympa.
Parce qu'elles sont dépareillées, mais elles ont un lien quand même.
Oui, c'est des chaussettes qui sont dépareillées, mais qui ont quand même un fil conducteur commun. Donc par exemple, on a le hibou, la chouette, elles sont assez originales et sympas. Mais pour autant, le défi, on souhaitait vraiment fédérer autour d'un défi commun et que l'aspect financier ne soit pas un frein. C'est aussi pour ça qu'on demande à des gens de nous envoyer des chaussettes qui leur sont propres.
Alors, pour envoyer photos, chaussettes et tout ça, vers où on se dirige ?
Alors, vous envoyez directement au secrétariat de l'association Trisomie 21 Normandie. Donc, vous pouvez les envoyer en direct via ce vecteur-là de communication. Vous pouvez aussi aller sur notre site internet Association Trisomie 21 Normandie et au niveau des contacts de nous l'envoyer. Vous pouvez vous déplacer. On est assez ouvert au final sur tous les établissements où on intervient pour apporter votre photo. Tout est possible.
Hier, vous étiez, en termes d'événements publics, hier vous étiez à la maison de quartier de la Madeleine pour proposer une journée de sensibilisation. Qu'est-ce qui se passe sur une sensibilisation et sur quel point le grand public a besoin d'être sensibilisé ?
Alors, souvent, on est tous traversés par le handicap à un moment ou à un autre de notre vie. Pour autant, on fait quand même le constat que quand on n'est pas impacté directement, c'est très lointain, ça reste très abstrait, puis on mesure pas forcément ce que ça veut dire. Donc là, les ateliers qu'on a pu mettre en place avec l'association AL2E, que je remercie parce que vraiment on a eu un très très bon accueil de leur part, on a vraiment travaillé en partenariat. On a pu mettre en place plusieurs ateliers pour expliquer ce que c'était la trisomie et comment une personne atteinte de trisomie pouvait vivre les choses. Donc au niveau sonore, on a pu mettre en place des ateliers où on reproduisait en au final le degré d'écoute d'un jeune ou d'un adulte porteur de trisomie, la difficulté aussi d'élocution qui pouvait parfois exister. Donc il y a beaucoup de gens qui ont pu tester et se sont dit ah oui, en fait on mesurait pas parce que voilà, on n'en avait pas conscience, on mesurait pas de la difficulté qui pouvait être celle d'un enfant ou d'un adulte porteur de trisomie. On a pu aussi mettre en place des ateliers sport sur des petites activités sportives en lien avec l'animateur L2S pour qu'ils puissent mesurer aussi ce que ça pouvait représenter pour un jeune ou un adulte porteur de trisomie de se mouvoir. Donc, et on a mis en place un atelier psychomoteur et on a mis en place aussi des ateliers sur la motricité fine, sur la difficulté parfois que le jeune pouvait avoir ou l'adulte à manipuler les objets. Et c'est vrai que c'était assez intéressant parce que on a eu des frères et sœurs de jeunes et qu'on accompagne et pour d'autres qu'on n'accompagne pas et qui nous ont dit mais en fait moi je m'énerve sur lui tout le temps parce que j'ai l'impression qu'il le fait exprès mais je mesurais pas que c'était ça sa vie en fait. J'avais pas pris conscience de la difficulté que ce simple geste pouvait entraîner chez lui. Et on a eu des parents aussi alors qui sont venus pour avoir de l'info pour certains, dont les enfants n'étaient pas accompagnés. Et là, pareil, on n'était pas que sur la trisomie 21, et ce qui est intéressant, parce qu'en fait, il y a des symptômes et des choses qui sont transposables d'une pathologie, je dirais, à l'autre, et qu'on peut étayer. Il y a des jeunes qui sont venus, il y a eu beaucoup de jeunes qui sont venus découvrir en nous expliquant que dans leurs écoles, il y avait des personnes qui présentaient un handicap et que pour eux c'était très abstrait. Et puis on a fait aussi des shootings photos, parce que forcément photo dépareillée. Et enfin on avait fait il y avait un atelier sur un quiz pour mieux comprendre la trisomie 21. Et là on a fait pareil le constat que pour beaucoup de personnes, c'est un peu les stéréotypes et c'est l'image qu'on peut en avoir d'il y a une dizaine d'années. Et quand on explique que ça c'est faisable, que oui il y a ça, mais il y a ça qui est faisable, pour certains ça a été un peu ça a été vraiment de grandes découvertes, mais très très intéressantes. Et on a fait aussi un atelier un peu plus généraliste où on est venu aussi questionner tous les moyens d'adaptation qui pouvaient exister pour toutes les formes de handicap qui pouvaient exister. Et là encore, on a pu échanger de manière très constructive auprès des jeunes et des moins jeunes et des personnes, parce qu'il y a eu aussi des grands-parents qui sont venus et qui nous expliquaient aussi la difficulté qui pouvait être la leur aujourd'hui en vieillissant et en faisant finalement une analogie entre le vieillissement et la personne porteuse de handicap.
Très bien, on voit bien que finalement nous tous autant qu'on est finalement aller se confronter à la différence, aller se confronter aussi à l'explication nous fait tous avancer, bien entendu. On repart en musique et puis on se garde deux petites minutes de conclusion si vous voulez bien, Nour.
Sur terre, Alexa, Alexa. peine de mort et que ce mois de juin affichait des températures records.
Avez-vous vu la vidéo terrible qui se passe à Gaza et celle d'un raton laveur trop mignon qui vole une pizza?
Clic des vulves assassines que vous pourrez voir pour de vrai en chair et en os et sur scène au Cube ce vendredi.
Le pire reste à venir.
Le pire reste à venir.
La matinale du matin qui va bien.
Le pire reste à venir.
Le pire reste à venir. La matinale du matin qui va bien.
HDM.
Les lundis, mardis, jeudi et vendredi.
Radio Principatif.
Alors écoute. 99.1
HDR.
Et 102.4 FM.
Radio Principatif.
Du bon son, de la bonne humeur et des bons plans.
Le pire reste à venir.
Il est l'heure de retrouver la chronique de Sceaux. Sceaux, qu'as-tu dans ta besace aujourd'hui?
Eh ben aujourd'hui, j'ai rien écrit. Je suis venu un peu les mains dans les poches, juste avec une envie de partager mon expérience en tant qu'autiste, en fait, le confort des relations sociales avec des personnes porteuses de trisomie 21. Parce que c'est vrai que bon, bah, dans le TSA, l'autisme, on se dit oui, le lien social n'est pas évident. Et que ce soit dans l'enfance, en centre aéré, ou dans la vie d'adulte, justement, en allant plusieurs fois au restaurant le 21, en fait, c'est des relations sociales qui, pour moi, sont hyper apaisantes et apaisées, quoi. On n'a pas du tout idée du confort que ça amène que de relationner avec des personnes porteuses de trisomie 21.
Alors, pour les neurotypiques que nous sommes, parfois, ça peut être, au contraire, peut-être un peu gênant ou malaisant de ne pas savoir comment aborder la question. Et toi, à l'inverse, tu trouves un confort.
Oui, pour une fois, justement, il n'y a pas de question. C'est-à-dire que, en fait, tu es dans une interaction où la personne, elle n'a pas de préjugés. Si elle a une question, elle n'est pas dans un jugement. La question, elle est juste dans une curiosité et un besoin de savoir quelque chose. C'est une énergie qui est franche, honnête, sincère. Et donc, en fait, il n'y a pas à suranalyser ce qui se passe, quoi. Et ça, c'est quand même très, très, très rafraîchissant quand on est quelqu'un comme moi qui avons l'impression de devoir passer un peu toutes les données qu'on récolte des signes des gens dans l'espèce de tableur qu'on a fait depuis notre naissance, en fait, pour essayer de comprendre ce qui se passe autour de nous, ce qui est un peu propre aux troubles du spectre autistique. Et donc là, en fait, on est carrément... on peut interagir sans ça. Et c'est vraiment rafraîchissant, en fait, quand on s'en saisit. De cette légèreté-là, j'ai l'impression qu'il y a une profondeur immense, en fait, qui naît. On balaye tout ce qu'est les attentes sociales, on balaye tout ce qu'est des codifications ridicules et en même temps qui sont anthropologiques, pour le coup, hein. Mais en fait, on se détache totalement de ça et on peut être dans une libération. C'est-à-dire que bah, dans l'enfance, par exemple, dans le jeu, ça plaît pas, t'as envie de jouer, t'as pas envie de jouer, il n'y a pas débat, en fait. Tu ne te réinterroges pas sur la place de ton camarade et son envie d'être là et ce qu'il a envie de partager avec toi. C'est clair, limpide et sincère. Donc, c'est hyper cool, en fait, quand t'es gosse et que tu peux être un peu saoulé par les conflits de cours de récré, tu vois. Donc ça, c'est très très chouette. Et puis par exemple, moi, le restaurant, en fait, pour avec l'autisme, parfois c'est très compliqué. J'ai besoin de savoir ce qu'il va y avoir dans le plat, j'ai besoin de savoir si la sauce, par exemple, elle est épicée. Je peux avoir avoir même besoin. Il y a certains plats, je vais pas les manger parce que ça va être servi, par exemple, la sauce, ou ça va être mis directement sur le, enfin, sur l'accompagnement. Alors que moi, j'aurais besoin qu'elle soit à part. Ça peut être des choses comme ça. Et donc là, en fait, dans, au restaurant Le 21, quand j'ai posé ces questions-là, quand j'ai demandé ça, il y a pas de jugement. C'est ah bah je vais demander à mon responsable de salle et puis au pire c'est un pourquoi, mais il y a aucun jugement derrière ce pourquoi, et c'est quand même enfin voilà, on se rend pas compte, mais pour moi aller au restaurant c'est compliqué. Donc là, ça vient simplifier totalement, en fait, aussi ces interactions-là pour moi. J'ai pas l'impression de passer pour la folle du village qui a son exigence de diva de vouloir mettre les choses séparées ou la sauce à part. Ça n'existe pas.
C'est-à-dire qu'en fait, le monde ordinaire se pose trop de questions parfois. Et il suffirait juste de s'en poser moins pour être plus en interaction avec le monde, on va dire, extraordinaire, ou en tout cas qui n'est pas dans les codifications normalisées.
C'est surtout de s'il y a des questions, c'est de se les poser sans jugement et sans commencer à se faire une réponse soi-même, en fait. C'est-à-dire vraiment d'accueillir la réponse sans aucune attente. Sans avoir fait de projection. C'est ça surtout qui simplifierait les choses. De ne pas avoir à analyser autant les choses. Donc pour moi, c'est de l'analyse. Pour des personnes neurotypiques, j'ai l'impression qu'on est plus de l'ordre du préjugé ou de ok, bah, je vais extrapoler par rapport à des expériences, ou alors ça vient totalement me percuter par rapport à mes expériences, et donc du coup je suis un peu offusqué, ou je vais le prendre mal, ou voilà.
Ou je vais pas savoir comment le prendre.
Ou je vais pas savoir comment le prendre aussi. Donc effectivement, ça vient simplifier énormément de rapports, quoi, moi je trouve. Et c'est aussi en ça que, en fait, l'inclusion, elle est hyper importante, parce qu'on le fait pour les personnes, mais on ne se rend pas compte forcément du retour, en fait. De l'effet parabole que ça peut avoir dans le retour de ce que les gens nous donnent dans des interactions très, très simples. Et donc, je vous invite vraiment à aller à ce restaurant Le 21, parce que vous allez voir dans la fluidité des échanges, la simplicité, la bienveillance, la rigolade, la sympathie. Enfin, il n'y a pas débat, et ce n'est pas fait parce que ça doit être dans le cadre du serveur qui doit être sympathique, etc. Non, on est sur la nature des personnes.
Dans ce que tu dis, moi j'entends quelque chose que je garderai, je crois, c'est l'inclusion, c'est réciproque.
Totalement, totalement.
Merci So.
Et bien de rien.
Nous sommes toujours avec Nour Khalif de l'association Trisomie 21 Normandie. Nous avons pas mal discuté, mais peut-être on a oublié des choses. Nour, est-ce qu'il y a des éléments essentiels que nous n'avons pas abordés avant de faire le résumé de tout ça ?
Alors moi, oui, je reviendrai aussi sur d'autres éléments, parce que c'est vrai que là on parle des actions qu'on peut mener aujourd'hui en lien avec la journée mondiale de la trisomie, et qui nous permettent aussi de remettre un peu en lumière l'association et puis les personnes formidables qu'on peut accompagner. Mais il y a aussi plein d'actions qui sont menées sur toute l'année. Alors là, en l'occurrence, sur la journée de la trisomie 21, on va aussi intervenir au sein d'un collège pour sensibiliser et accompagner en accord et en lien avec le prof de SVT, des collégiens, sur la trisomie 21. On va intervenir au niveau de la DGSI, mais il y a énormément de choses qu'on essaye de travailler toute l'année, aussi bien d'un point de vue culturel, d'un point de vue sportif, et ça me paraît important de les mettre.